Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Christ va souvent à l'encontre des lois du monde. À celui qui n'a travaillé qu'une heure, il donne le même salaire que celui qui a trimé toute la journée. À la femme adultère, alors que la loi dit qu'il faut la lapider, il la laisse repartir avec une petite réprimande, « Va et ne pêche plus ». Un fils réclame à son père sa part d'héritage, il va la dilapider, et puis il revient et son père l'accueille à bras ouverts au lieu de lui donner une bonne réprimande. Et aujourd'hui, le Christ semble approuver le comportement d'un intendant dit malhonnête, qui spolie son maître et achète les bonnes grâces des débiteurs pour s'en sortir parce qu'il ne se sent pas de travailler ou de mendier. C'est, il est vrai, assez déconcertant et cela nous perturbe. Nous perdons nos repères. Notre logique bien-pensante, notre système de valeurs du monde est chamboulé. Est-ce que vraiment le Christ encourage la malhonnêteté? Est-ce vraiment le message de cet évangile? À qui s'adresse ce texte, cette parabole? Jésus s'adresse à ses disciples, c'est-à-dire à des personnes qui ont décidé de le suivre, d'orienter leur vie vers lui, c'est-à-dire ses disciples de l'époque et nous aujourd'hui. Pour bien comprendre la situation, il faut savoir comment fonctionnaient la finance et le commerce à cette époque. Le gérant ou l'économe qui gérait les affaires de son patron avait beaucoup d'autonomie. Et il se payait sur le négoce qu'il faisait. Lorsqu'il faisait un prêt, il fallait tenir compte, bien sûr, du capital, d'un intérêt plus ou moins important en fonction du risque estimé, d'un pourcentage supplémentaire pour le bénéfice de son patron et aussi pour payer son salaire à lui. On dirait aujourd'hui qu'il prenait sa commission. L'économe nous dit l'évangile, dilapidait ou bien gaspillait ou bien dissipait les biens de son maître. Comment? Alors pour ça, on peut se dire, mais qui est le maître? Qui est l'homme riche? Dans la bouche de Jésus. Certains pères y voient Dieu lui-même et le gérant, c'est nous, c'est chaque homme et chaque femme de ce monde. Les biens, les richesses, c'est toute la création et la vie que nous avons reçue gratuitement. Regardons le monde. Qu'en faisons-nous? Est-ce que nous ne dilapidons pas? Est-ce que nous ne gaspillons pas tout ce que nous avons reçu par une consommation sans limite, par une exploitation sans vergogne des ressources de la planète? Ce jeudi 28 juillet, a marqué le jour du dépassement en 2022, donc date à laquelle l'humanité a épuisé les ressources que la Terre peut fournir en un an. Est-ce que nous ne nous enrichissons pas sur le dos des autres, sur le dos des générations à venir? Est-ce que nous n'essayons pas de détourner à notre profit tous ces dons de Dieu? Est-ce que nous ne cherchons pas à accroître notre patrimoine par des placements et parfois en fraudant? Est-ce que l'argent n'occupe pas une place très importante dans notre vie? Tout ce que nous possédons, nos biens matériels, nos connaissances et même notre temps, appartiennent à Dieu. Que nous restera-t-il à la fin de notre vie terrestre? Ne sommes-nous pas les intendants des dons de Dieu que nous sommes invités à utiliser, à faire croître pour le développement de son royaume? Dans le respect de la raison sociale de l'entreprise divine, pour parler en termes économiques aujourd'hui. Et sa raison sociale, c'est d'aimer comme Dieu nous aime. Est-ce que Dieu ne pourrait pas nous dire aussi, à chacun d'entre nous, qu'est-ce que j'entends dire de toi, sur ta manière de gérer mes biens? Il nous demande de rendre des comptes. et il nous annonce qu'il va nous retirer la gestion de ses biens. Alors l'économe se dit en lui-même, cela veut dire qu'il prend conscience que ce qui était toute sa vie, sa façon d'agir, ne le mène à rien, car lorsque la gérance va lui être retirée, il n'aura plus rien. Une chose m'a frappé dans ce texte. Au lieu de demander d'écrire 50 ou 80, il aurait pu demander d'écrire 10 ou 20, ou même de détruire les billets. Que risquait-il, puisque la gérance allait lui être retirée de toute façon? Il y a une bonne raison qui montre que l'intendant, qui avait un comportement malhonnête, s'est retourné, il se reprend. Comme je vous ai dit, à chaque prêt, il faut rembourser la dette en capital et en intérêt. Et ceci varie en fonction du risque pris et de la commission que l'on se destine. L'intendant est habile, car il n'annule pas le remboursement du capital, mais une partie des intérêts qui représentent sa commission. Le maître lui retrouvera son capital et lui se fera bien voir des débiteurs. Ceci pour expliquer pourquoi le maître loue l'habilité du gérant qui le trompait. Lui, le maître ne paie rien, mais le gérant inverse les valeurs qui le dirigeaient, qui le guidaient. Il ne cherche plus à s'enrichir matériellement, lui personnellement, mais il entre dans une relation d'empathie, une relation d'amitié, d'amour avec les autres. Il allège le fardeau qu'il leur faisait injustement porter. Certes, il espère quelque chose en retour. Ce n'est pas encore l'amour absolu comme celui de Dieu, mais c'est une mise en route, c'est un changement dans notre vie. C'est comme le fils prodigue, à un certain moment, il fait métanoïa. Et la conclusion de Jésus est claire. Faites-vous des amis avec l'argent trompeur, l'argent d'iniquité, pour qu'une fois celui-ci disparu, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. L'argent, dans l'Évangile, est écrit avec une majuscule. C'est-à-dire que ça représente la puissance qui domine, qui guide le monde. C'est Mammon, le démon de l'avarice, de la richesse, des biens matériels. L'argent trompeur, c'est celui qui nous donne l'illusion de réussir notre vie, qui nous garde prisonniers de ce monde et de ses convoitises, qui nous fait agir de façon malhonnête et insensée. Est-ce que si nous vivons aujourd'hui dans un bien-être relatif, ce n'est pas parce que nous avons et nous continuons, comme je vous dis, à exploiter les richesses des hommes et des femmes sur d'autres continents, tout ça pour notre bien-être? Alors chaque fois que nous prenons conscience de notre égarement, que cet argent injustement gagné n'est pas dans la façon d'être d'un disciple du Christ, nous nous rapprochons du royaume de Dieu, parce que nous déplaçons le curseur, nous déplaçons l'orientation de notre vie. Souvenez-vous, le Christ avait dit aussi, « Ce que vous faites au moindre des miens, c'est à moi que vous le faites. » Le Christ devient ainsi le débiteur de ceux qui vivent dans l'amour et la miséricorde. En résumé, loin d'être une promotion de la malhonnêteté, cette parabole au contraire nous apprend trois choses. En un, elle nous remet à notre juste place. Chaque disciple est un intendant des ressources que Dieu lui a remises. En deux, il nous invite à faire le bilan de la façon dont nous avons vécu et surtout comment avons-nous aimé. Et en trois, il nous invite à faire métanoïa et de vivre réellement dans l'amour du Christ pour entrer dans la vie éternelle. À lui soit honneur, gloire et louange au siècle des siècles. Amen.